L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour votre atelier numérique, votre rendez-vous du samedi. Vous le savez, exclusivement sur BFM Business, chaque samedi, 16h-18h. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve cette semaine avec un studio formidable, puisque je suis à San Francisco, avec toute l'équipe de l'atelier US qu'on va retrouver dans un instant et avec qui on va faire une bonne partie de cette émission et notamment s'intéresser à l'actualité de cette semaine. Mais malgré tout, on retrouvera aussi nos studios parisiens, avec tout à l'heure notre start-up de la semaine, mais aussi notre enquête de l'atelier. À quoi va ressembler l'opticien et sa boutique de demain ? Ce sera avec un exemple concret, celui d'Atoll. Les opticiens, Lila Megrawa a rencontré le PDG d'Atoll. Ce sera donc tout à l'heure. Invité exceptionnel aussi dans cet atelier, c'est Yuval Harari, historien et auteur du best-seller Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Avec lui, on va imaginer l'être humain de demain. Serons-nous tous cyborgs demain? On verra ça avec Lila, donc, et notre invité. Notre passion selon Sanet, on va parler d'art numérique tout à l'heure et imaginer à quoi va ressembler l'art numérique de demain. Notre dossier de l'atelier US, on parlera Family Tech tout à l'heure et puis notre World Tour avec Aurore Giraud. Ce sera la culture chinoise. Peut-elle être un frein à l'e-commerce? Et puis le crash test d'Antoine Cyr tout à l'heure. Ce sera les femmes à barbe, tout un programme. Et puis le décryptage de Guillaume de Groisse, on évoquera le départ du patron de Nest. Tony Fadel va voir ailleurs. Que va-t-il se passer? On verra ça donc avec Guillaume. Mais dans l'immédiat, donc, je suis ravi d'accueillir toute l'équipe de l'atelier US pratiquement. Alors il y a Pauline, il y a Arnaud, il y a Guillaume et il y a Nathalie. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Et on va commencer par Pauline donc. Et votre petite news de cette semaine, Pauline.
Alors aujourd'hui, François, je m'intéresse au futur du travail et je me demande, est-ce que le travail de demain ne nous pousse pas à revenir au béaba, à nos besoins les plus humains? Commencer par le sommeil.
Ah.
Alors en
c'est
studio,
pour ça que vous avez une petite mine aujourd'hui.
Oui,
vous avez testé
mine.
Cette news.
Je me demandais combien d'heures de sommeil avez-vous passé cette nuit en studio.
Bah écoutez, avec le décalage horaire, moi pas beaucoup.
Pas
mais
beaucoup.
Bon, finalement c'est pas grave parce que je pense que ça va s'arranger après.
C'est très mal, François. C'est
je
très mal.
Bien.
Saviez-vous qu'il faut en fait entre 7 et 9 heures de sommeil pour tout adulte entre 25 et 67 ans? Il me semble que vous rentrez dans cette tranche d'âge.
Écoutez, oui, depuis peu dans 25, oui, donc tout va bien. C'est vrai.
Et en fait, Arianna Huffington, donc la patronne du Huffington Post, dont je suis une grande fan, explique même que, puisqu'elle elle a fait du cheval de son cheval de bataille le sommeil, après un burn-out assez sérieux.
Non, elle n'a pas fait du cheval
sérieux.
En dormant, c'est pas
non,
ça du tout.
Non, elle
n'a
pas fait du
news.
Cheval de bataille en
ne
dormant.
Ne retenez pas cette partie de la news, c'est pas ça du tout, hein, on est d'accord.
Bon bref, Arianna nous a fait un burn-out sérieux en 2009. Depuis, le sommeil, c'est sa passion, et elle dit que le sommeil a le pouvoir de nous rendre plus productifs au travail, plus créatifs, de faire de nous des leaders inspirants.
Bon.
Attention.
Mais il faut pas dormir au travail, c'est qu'il faut dormir
non.
avant, bien
dormir
comme il faut.
Avant le travail et faire des siestes. Bon, bref. Et certains l'auraient entendu, la grande compagnie d'assurance américaine Aetna paye ses employés, offre une récompense à ses employés qui dorment plus de 7 heures de sommeil, enfin plus de 7 heures par nuit, $25 pour 20 nuits consécutives à 7 heures de sommeil, $300 à l'année. Bien sûr, les employés.
Pas de quoi s'acheter un nouveau matelas, mais c'est pas déjà de quoi un bon début.
Voilà, et c'est sur la base du volontariat. Les gens traquent leur sommeil avec un wearable où on parlait dans une autre émission précédente des casques intelligents, donc tous ces objets connectés qui nous permettent de traquer le sommeil. Et en échange, ils ont une petite récompense. Alors on pourrait se dire bon, c'est un peu intrusif de communiquer ce type de données à son employeur. Pourtant, encore une fois, c'est sur la base du volontariat. Et puis après tout, est-ce qu'on ne devrait pas saluer une initiative qui promeut le bien-être au travail, un équilibre de vie sain. Et comme le dit Arianna, je suis une grande admiratrice, elle dit prendre soin de soi, commencer par bien dormir, on devrait tous avoir ça bien en tête, employeur comme employé, et c'est probablement la clé du bien-être dans la vie comme au travail.
Eh bien écoutez, vous allez pouvoir tester cette philosophie et nous dire comment ça se passe, Pauline. Hein ? Merci beaucoup, Pauline Cantner. On enchaîne avec vous, Guillaume Renoir. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Guillaume ?
Alors moi, j'ai une info qui va ravir tous les collectionneurs de vinyles chevronnés. Parce que vous savez que le vinyle fait aujourd'hui un retour en force. On se les arrache dans les brocantes et chez les revendeurs.
C'est vrai. D'ailleurs, on va bientôt enregistrer cette émission de l'atelier en vinyle, sur des vinyles.
Hein,
voilà, on va essayer d'être vintage.
Et ben c'est impeccable, on pourra du coup...
Il y aura des petits craquements, émission. Vous savez, comme
absolument,
comme sur
c'est en partie pour ça que le vinyle fait son retour, justement. Et ben du coup, on pourra lire l'émission avec une toute nouvelle platine connectée.
Oui.
Qui s'appelle The Turntable, et qui veut donc justement cumuler le charme du vinyle, le charme de l'objet, le charme de ce fameux craquement qui plaît aux amateurs, avec les possibilités offertes par l'Internet et les nouvelles technologies. Alors ça se présente sous la forme d'un lecteur de vinyle traditionnel, avec en plus donc toutes les fonctionnalités offertes par la connexion à l'internet. Ça veut dire que donc on peut acheter ces vinyles, les lire sur la platine, et en outre la platine peut se connecter via Wi-Fi ou Bluetooth sur des enceintes portables. Elle peut aussi se connecter à Spotify, ce qui signifie qu'on peut créer des playlists digitales en collectant les pistes tirées de ces différents albums. Et on peut aussi, pour l'expérience sociale et communautaire, partager la musique qu'on écoute en ligne avec ses amis via Spotify. Voilà, donc c'est une manière de marier
vintage. Oui, l'analogique et le numérique.
Voilà, exactement.
Bon, est-ce que vous avez une platine vinyle, vous, là, à San Francisco? Je crois qu'il y en a une sur la petite étagère, là, juste derrière Pauline.
Oui, alors ça, c'est un vieux modèle.
C'est un vieux modèle, hein, celui-là. Je pense pas qu'il ait du Wi-Fi ou du Bluetooth, mais bon.
Mais moi, je n'en ai pas, mais je vais peut-être investir, du coup.
Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. On enchaîne avec Nathalie, qu'on est ravis d'accueillir. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Alors, votre petite news Nathalie cette semaine.
Alors moi je voulais vous parler d'un feuilleton qui se passe ici aux États-Unis. Alors on pourrait même dire un bras de fer, puisque on parle encore là de mobilité, de Uber et de son concurrent Lyft. Mm-hmm. Alors ce qui s'est passé, ça s'est passé il y a un mois à Austin, au Texas. En fait, le régulateur voulait leur imposer de faire des contrôles par... empreinte digitale pour les chauffeurs, et Uber et Lyft avaient donc joué le bras de fer en disant que si la loi passait, ils se retiraient d'Austin parce qu'ils voulaient pas faire ces contrôles-là, ils avaient déjà des contrôles en interne qui suffisaient, etc. Donc la chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont perdu. Donc ils sont partis d'Austin il y a un mois. Et ce qui est rigolo, c'est
qu'il y a plus Uber, il y a plus Lyft à Austin.
Exactement.
D'accord.
Et ce qui est rigolo, alors ils vont peut-être revenir, hein, parce qu'ils ont déjà fait ça dans d'autres villes. Ils ont fait le bras de fer, puis finalement c'est quand même du business. Oui. Donc le feuilleton
voilà,
n'est pas terminé.
C'est ça. Oui, ça leur fait perdre quand même pas mal d'argent.
Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça a laissé une place vide à des nouveaux acteurs. Mmh. Et il y a un groupe qui s'est créé sur Facebook, qui a aujourd'hui plus de 30 000 fans. Et c'est Arcade City qui a dit, voilà, je vais créer un groupe sur Facebook, je vais dire aux gens, ils ont qu'à poster où est-ce qu'ils veulent aller, quand. Et d'autres personnes, donc qui prendront le rôle de chauffeur, répondront en disant, moi je viens vous chercher pour tel prix. Et du coup, c'est un service de covoiturage en peer-to-peer, puisqu'en fait, tout se passe entre les particuliers, ils décident le prix, ils décident de qui vient, et c'est comme ça que le service commence à se lancer et que Arcade City, qui se positionnait sur le covoiturage, commence à faire son chemin. Donc c'est innovant, c'est un peu risqué puisque finalement vous pouvez monter dans une voiture qui est pas forcément assurée pour, mais vous le savez, donc voilà, ils responsabilisent le client final. Bref, je dirais que le malheur des uns, le malheur de Facebook, de Uber et Lyft fait le bonheur des autres et fait le bonheur d'Arcade City dans cet exemple.
On voit que la place n'est pas restée vide longtemps. Hein,
exactement, c'est un vrai sujet de mobilité.
Merci beaucoup Nathalie, on va enchaîner maintenant avec Arnaud. De quoi allons-nous parler avec vous Arnaud ?
On va parler d'un robot qui trie vos déchets et sauve la planète.
Ah voilà, ça c'est bien. Comment s'appelle-t-il ? Goldorak, un truc comme ça, non ?
Robot s'appelle Trashbot.
Ah, cela dit,
pour son nom. Voilà, en effet, il répond à un problème cornélien, parce que qui ne s'est pas demandé si ce déchet devait aller dans la poubelle du recyclage ou celle des ordures destinées à la décharge. En effet, une bouteille en plastique, elle va dans l'une, mais un sac plastique, lui, il va dans l'autre.
Compliqué à San Francisco, les poubelles, ou c'est comme en France, on comprend rien?
Alors, il y a trois types de poubelles, mais surtout, l'État californien est assez strict sur ce sujet.
D'accord.
Et les amendes peuvent aller jusqu'à 1500 dollars si vous ne respectez pas, en effet, le tri sélectif. Donc, c'est assez strict.
Et puis là, j'imagine qu'il faut payer trash.
Exactement.
Enfin, non, c'est pas un bon meu jaune bon. Il est un petit peu compliqué, celui-là. Bon, pas bon. Pas grave.
Alors du coup, j'ai découvert une start-up qui s'appelle Clean Robotics à San Francisco, qui a donc inventé Trashbot. Et donc, c'est une poubelle avec un robot intégré qui détecte automatiquement la matière du déchet et en fonction, on va le mettre dans le compartiment à recycler ou non. Donc, c'est un petit geste pour le robot, mais un grand geste pour la planète.
Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est une belle conclusion. Pauline.
Alors, dans un autre registre, mais toujours un peu dans l'énergie, enfin les matières premières, moi c'est sur l'eau. Je voulais vous parler d'eau. Sachez que plus de 50% des enfants ne s'hydratent pas assez. C'est terrible parce que la déshydratation est un vrai fléau. Ça affecte les facultés cognitives, l'attention. Et dans le développement de l'enfant, ça peut être aussi la source de l'origine de maladies comme le diabète et l'obésité.
Donc il faut boire.
Exactement.
De l'eau.
Voilà. Comment
Bien
motiver
sûr.
Les enfants à boire davantage de l'eau et comment informer les parents du bon de la bonne consommation d'eau de leurs enfants. Alors c'est là que Gouloulou entre en jeu, une sorte de bouteille d'eau gourde interactive et connectée.
Gourde interactive.
Oui, tout
c'est,
à fait.
C'est beau.
La bouteille est dotée d'un petit écran sur lequel apparaît un joli petit animal que l'enfant peut choisir d'entrer.
D'accord.
Alors cet animal grandit et évolue à mesure que de l'eau est consommée. La bouteille est bourrée de capteurs et arrive à savoir la quantité d'eau qui est ingurgitée par l'enfant. C'est un peu le nouveau visage des Tamagotchi des années 90 que j'ai connu. Hein.
Vous étiez.
J'étais enfant, mais j'ai eu
un petit truc à l'époque.
Un minuscule truc. L'animal devient en effet une sorte d'ami virtuel de l'enfant, et les créateurs du projet parlent même de compagnon de vie qui encouragerait du coup les habitudes de vie saines de l'enfant grâce à la gamification. La campagne se retrouve sur Kickstarter en ce moment même. Elle a déjà dépassé ses objectifs et les bouteilles devraient être disponibles depuis 2016. Ça s'appelle Gouloulou.
Gouloulou, d'accord. Bon, et ça va arriver en France, ça, ou pas? Oui, en théorie, ça va arriver en France, bien évidemment. Nathalie.
Oui, alors moi je voulais vous parler de GovTech. Vous savez, on parle beaucoup de politique actuellement. Il y a plein de technologies pour aider les gouvernements. Et aujourd'hui, là, c'est une annonce qu'a fait la Maison Blanche herself. Donc c'est une grosse annonce qui fait appel en fait aux innovateurs et aux entrepreneurs pour réformer son système de justice. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, si on regarde le système de justice américain, il est très coûteux. C'est 270 milliards de dollars par an. Et en plus, il est injuste, et c'est quand même la Maison Blanche qui le dit. En fait, ils se sont rendus compte que il y avait, selon la race de la personne arrêtée, et ben parfois des durées de sentence qui étaient pas les mêmes. Donc c'est quand même
parfois même des sentences beaucoup plus dramatiques. Voilà.
Exactement. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Ils s'en sont quand même rendus compte, et ils se sont dit, eh ben on va faire appel à la data, à l'intelligence artificielle, pour essayer de trouver une solution à ces domaines. Donc en fait, ils se sont tournés sur la donnée. Alors ils ont commencé à le faire en Californie. Il y a une première expérimentation qui est faite ici à Oakland, à côté de San Francisco. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont équipé les policiers de caméras sur leur corps, donc de body cam, comme ils appellent ça, des caméras embarquées. Et en fait, rien que le fait d'avoir le policier qui a la caméra, mais ils se sont rendus compte que déjà ça diminuait son usage de la force. Il avait un autre comportement lui-même. Et en plus, ça générait des terabits de données qui pourraient du coup servir pendant les cas en justice pour voir exactement
ce qui... Voilà, ces images pourraient servir de preuve au cas où, en tout cas, s'il y a discussion, on va dire.
Exactement. Donc en fait, voilà, on va vers un système plus juste. Il se tourne du coup sur la data pour s'en servir. Donc on voit bien, c'est un exemple qui montre que la donnée, on parle beaucoup de la force, de la puissance de la data. Mais voilà, la donnée est utile partout, même dans ce cas-là. Alors on pense aussi au respect de la privacy, le fait que la personne va avoir une caméra, va tout filmer. C'est vrai que ça pose des questions, mais en tout cas, si cette expérimentation peut permettre à la justice d'être plus juste, moi je dis, ça va dans le bon sens.
Voilà, maintenant les policiers américains vont être tout polis quand ils vont vous arrêter. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Tout va bien? Il semblerait que éventuellement vous auriez fait une petite erreur là, mais bon voilà. Souriez, vous êtes filmé, donc ça change tout, la caméra. Nathalie, avant de se quitter, encore une petite news peut-être?
Oui, alors là on change complètement d'univers, puisqu'on va aller dans le bâtiment et dans le BTP. Alors j'aime bien les acronymes avec tech, alors je vous en refais un autre, c'est Construction Tech. Et on voit de plus en plus de start-up qui viennent sur ce secteur-là, et une start-up qu'on a rencontrée récemment à San Francisco, c'est Fieldwire, dont un des cofondateurs est français. Et en fait, alors qu'est-ce qu'il propose? Il propose un outil de collaboration pour les chantiers. Vous savez que les chantiers font appel à plein de forces de personnes différentes, les architectes, les maîtres d'œuvre,
les corps de métier.
Donc en fait, on va digitaliser tout ça. Mmh. Alors, ils immunisent les personnes d'une tablette, et en fait, on va avoir donc la digitalisation des plans, le contrôle qualité dessus, la levée des réserves avec signature électronique, la gestion des tâches entre les différents corps de métier. Bref, ça a plein d'avantages, et notamment, ça évite les coûts d'impression du papier, qui sont énormes dans ce secteur-là, et aussi, ça permet des gains de temps. Fini de se dire, je dois retourner au bureau, j'ai oublié un plan. Voilà, vous avez tout sur votre tablette. Donc, François, on voit que tous les métiers se digitalisent, même les métiers historiques comme celui du bâtiment.
En revanche, ça va être, à mon avis, des tablettes un petit peu plus costauds que celles qu'on peut avoir à la maison, parce que dans des situations extrêmes,
c'est vrai.
Ça va être compliqué, là.
Ils ont des premiers retours d'expérience et c'est vrai que c'est un sujet.
Mais notamment Panasonic hein, fabrique des tablettes durcies et des ordinateurs durcis qui ont été fabriqués pour les chantiers. Donc vous pouvez les jeter par terre, vous pouvez les mettre dans l'eau, etc. Et ça fonctionne toujours. Donc voilà, il y a ce qu'il faut.
Il y a ce qu'il faut en construction tech.
Merci Nathalie. Nathalie qu'on va retrouver dans un instant pour le Silicon Carnet. Et on reste avec l'équipe de l'atelier US. Et la petite sélection de cyber gadgets de l'équipe. À tout de suite, c'est l'atelier numérique. Merci d'être avec nous. On revient dans une minute.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Toujours l'atelier numérique, toujours depuis San Francisco. Merci d'être avec nous. Jusqu'à 18h, vous le savez, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies et de l'économie numérique. Toujours à l'atelier US avec Arnaud qu'on va retrouver dans un instant pour sa sélection de gadgets de cette semaine. Oui, parce que Arnaud, vous ne le connaissez pas encore beaucoup, mais il adore les gadgets. Mais auparavant, c'est notre Silicon Card avec Nathalie Doré. Nathalie, on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Quelles sont les nouveautés dans ce domaine?
Eh bien François, il y a deux nouveautés, mais qui sont des nouveautés majeures. C'est qu'on est prêt, ça y est, on est prêt d'un point de vue technologique, mais on est prêt aussi d'un point de vue des usages. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, on va de plus en plus oublier nos smartphones et autres accessoires, et ça va être la voix plus l'intelligence artificielle qui vont être à la base de notre quotidien.
Bon alors Nathalie, on connaît ça déjà hein, avec Siri, OK Google, etc. Mais est-ce que c'est vraiment utilisé, vous, aux US, ce genre de service?
Oui. Alors, complètement. Il y a d'ailleurs une récente étude hein, qui a été faite auprès de 500 Américains et qui montre que seulement 2% des propriétaires d'iPhone n'ont jamais utilisé Siri. Donc voilà, c'est quand même massif. Quant à Google, eux, on a bien vu lors de Google I.O., hein, leur conférence connue ici, ils attachent de plus en plus d'importance à la voix, comprenant que celle-ci va contrôler les recherches Google du futur. Donc ça va vraiment impacter leur business. Et ils ont d'ailleurs fait l'annonce de Google Assistant qui va se baser sur la voix. Alors, côté intelligence artificielle, elle va être de plus en plus performante et de moins en moins chère. Donc il va y avoir vraiment une accélération, une démocratisation. Et petit clin d'œil à Elon Musk, hein, qui est quand même notre superstar ici dans la vallée, qui, avec d'autres investisseurs, a investi $1 milliard pour créer une non-profit Open AI, intelligence artificielle qui se focalise sur le développement de l'intelligence artificielle.
Donc, la voix plus l'intelligence artificielle, ça donne quoi, Nathalie?
Alors, ça donne vraiment concrètement des nouveaux usages au quotidien. Et on parle pas du futur, hein, sans même des usages qu'on utilise dès aujourd'hui. Je vais vous prendre quelques exemples. Je me réveille, et bien au petit déjeuner, je demande à Alexa d'Amazon, vous savez, le fameux Echo qui trône dans ma cuisine, de me dire quel est mon agenda de la journée, la météo, le trafic. Elle allume la télé pour que je regarde les news du matin. Donc tout ça se pilote à la voix. Ensuite, j'interroge Molly, qui est mon infirmière virtuelle de Sainte-Sully, qui se charge de faire un petit check-up de santé en mesurant quelques données importantes me concernant. Et en fait, il est temps d'aller faire un peu de sport. Alors je pars faire un jogging avec Vie. Elles ont toutes des noms en I ou en A, c'est assez rigolo. Un wearable qui devient un coach virtuel. Alors Vie, en fait, rythme ma course en fonction de mes objectifs, mais aussi quand même de mes capacités physiques, des exploits que j'ai fait dans le passé et de comment je me sens aujourd'hui. Donc Vie, alors là, pour le coup, c'est la seule, elle n'existe pas encore. Elle est sur Kickstarter actuellement et elle sera disponible à la fin de l'année. Et puis quand même, François, il est temps de travailler.
Un petit peu, oui.
Donc je vais au travail et Ami, toujours en I, mon assistante virtuelle, écrit à mes clients et leur propose des rendez-vous. Donc bref, la révolution est en marche. Tout cela est réalisé par de l'intelligence artificielle et très souvent piloté, comme vous l'avez vu, par la voix.
Ouais, ça fait un peu penser au film Her, hein, qui était sorti il y a quelques
Exactement.
Années. Exactement. Mais alors, quelle va être notre relation justement avec ces compagnons de vie? Est-ce qu'on va tomber amoureux de son système vocal?
Ouais, alors c'est vrai que si on repense au film Her, il y a quand même une relation qui se intime, crée. Hein. Alors ouais. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y aura pas de relation parce que ce sont quand même des machines. Mais le débat est ouvert et Neil Watson de la Singularity University a déclaré récemment que toute relation implique de l'attachement. Donc vous avez raison, François. Et selon lui, alors il va même plus loin, il dit que tous les êtres humains s'attachent aux animaux de compagnie. Et ben, ça va être la même chose. Ils vont s'attacher à leurs machines et à leurs robots. Voilà. Donc je partage pas forcément cette vision, mais le débat est ouvert.
Oui. On verra bien, parce que là encore, on peut pas concrètement caresser Siri. Hein. Voilà, elle n'existe pas, donc c'est vrai. Alors on ronne
pas.
C'est
très virtuel tout ça.
Tout c'est très virtuel. Bon, ça fait un peu peur quand même, hein, Nathalie. Quels sont les risques de voir percer ces nouveaux usages finalement?
Oui, c'est vrai. Alors moi, j'aime bien quand même voir les aspects positifs, hein, gain de temps, facilité d'usage. Et on en a d'ailleurs aussi pas beaucoup parlé d'un aspect positif qui est l'anticipation, hein, qui va être gérée par l'intelligence artificielle. Alors, les risques. Les risques, c'est qu'on va avoir des machines qui vont penser pour nous. Donc en fait, le principal risque, ça va être de plus trop faire fonctionner notre cerveau et on risque de perdre en fait des fonctions cognitives comme prendre des décisions, explorer, innover, inventer. Donc en fait, il va falloir trouver une bonne balance, qui est un mot ici très 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 souvent utilisé. Voilà, il va falloir trouver une balance entre l'utilisation de ces objets qui vont nous aider au quotidien,
qui nous facilite la vie, puis qui
voilà. Et puis quand même utiliser notre cerveau.
Oui. Mais rappelez-vous, les numéros de téléphone avant, on les retenait par cœur.
C'est vrai.
Quand on n'avait pas le portable pour appeler ses proches. Là, maintenant, on les connaît plus. C'est ça qui est terrible.
Ouais. Donc, ça va dans ce sens,
Ça va
quand
dans
même.
Ce sens. Et c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée. Merci beaucoup, Nathalie. Et on enchaîne maintenant avec la sélection de gadgets d'Arnaud Auger. Alors, Arnaud, on va commencer par quoi?
On va commencer par, un robot qui, cette fois-ci, plie les vêtements et sauve votre mariage. Alors, je vous ai parlé en News 1 d'un robot qui sauve la planète. Là, c'est au moins aussi important, ça va sauver votre mariage. Et non, ça ne se passe pas dans la chambre, mais dans le dressing. En effet, donc, quel couple ne s'est pas
battu...
C'est
déjà plus politiquement correct.
Hein. Je ne sais pas sûr. Hein. quel couple ne s'est pas battu sur les problèmes diplomatiques, justement, très sensibles, des t-shirts ou robes mal pliées, ou sur le fait de savoir à qui était-ce le tour cette semaine de ranger les vêtements? Pour répondre à tous ces problèmes cruciaux du quotidien, j'ai donc découvert Foldimate dans la Silicon Valley, qui a créé un robot qui plie vos vêtements, les défroisse et les parfume. Rien que ça.
Il vous suffit
d'accrocher vos vêtements à la machine comme vous feriez sur un étendage.
D'accord.
Ensuite, le robot va plier les vêtements à la perfection, un par un, à votre place.
Pas aussi bien que vous, Arnaud, quand même.
Beaucoup mieux que moi, en tout cas.
D'accord.
Après quoi, le robot va produire de la vapeur pour déplisser les vêtements, qu'ils soient presque aussi lisses que si vous les aviez repassés. Et enfin, il va même pouvoir les parfumer et les asperger d'adoucissants afin que vous puissiez directement les mettre dans votre étagère. Donc, c'est pas encore possible de le commander. C'est un entrepreneur israélien qui travaille dessus depuis 3 ans.
D'accord.
Mais là, il lève $1 million pour produire ses premières machines en série. On peut pas encore le précommander, mais vous pouvez déjà réserver votre futur Foldimate en payant $50 pour avoir un peu plus de 10% de réduction sur la machine, qui devrait tout de même coûter entre 700 et $850.
Ah oui.
Donc, c'est pas donné, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un divorce. donc voilà, il vous reste quelques heures en avis si vous voulez réserver une des 3000 machines mises à disposition. Sinon, vous pouvez déjà inscrire votre email pour être averti de la probable future campagne de financement participatif, puisqu'il y a déjà 67 000 personnes qui se sont inscrites.
Ah oui, donc il y a au moins 67 000 personnes qui veulent avoir du linge propre, parfumé, bien plié.
Ou qui ont des problèmes de mariage. Et j'imagine du coup que pour fin 2017, votre conjoint ou votre conjointe pourra vous offrir votre Foldimate.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les grandes marques de lessive ou de machines à laver devraient être aussi intéressées par cette innovation, non Arnaud?
En effet, et d'ailleurs, Foldimate s'est fait accélérer par Plug and Play, le grand accélérateur de start-up dans la Silicon Valley qui travaille avec les grands groupes. Et parmi les grands groupes partenaires de Plug and Play, il y a un certain Procter & Gamble qui commercialise notamment Febreze, qui a une gamme de désodorisants pour textiles. Donc, on imagine bien Febreze vendre des capsules pour recharger votre Foldimate, comme Nespresso vous vend aussi ses capsules de café. On imagine bien aussi Bosch, qui est également partenaire de Plug and Play, acheter les droits d'exploitation des brevets développés par Foldimate pour lui-même vendre ses propres machines. Bref, les startups n'inventent pas que des applis mobiles pour les adolescents, mais imagine aussi avec les grands groupes des solutions pour la fameuse ménagère de moins de 50 ans et surtout donc pour les couples du 21e millénaire qui se partagent les tâches ménagères mais qui préféraient les partager avec les robots.
Eh bien, pourquoi pas? On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Arnaud. Et on va enchaîner tout de suite avec la suite de cet atelier numérique. Vous restez là. Startup de la semaine dans une minute avec Lila. Et puis notre enquête, à quoi ressemblera l'opticien et sa boutique de demain? Avec un exemple concret, celui d'Atoll, les opticiens. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, invité exceptionnel dans cet atelier, ce sera Yuval Harari, qui est historien et auteur du best-seller Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Avec lui, nous imaginerons l'être humain de demain. Serons-nous tous cyborgs dans quelques années? On verra ça avec lui. Mais auparavant et avant notre enquête de l'atelier, notre start-up de la semaine avec vous, Lila Megrawa, on va parler du collectif Comme un accord qui pourrait bien révolutionner l'univers juridique et administratif.
Oui, François. Alors, pour ce focus start-up, on va s'intéresser au projet Comme un accord. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Danjard. Bonjour.
Bonjour.
Alors Marc Danjard, vous avez passé 20 ans dans la Silicon Valley, vous avez travaillé pour des sociétés comme Oracle, Sony et de nombreuses startups, et vous travaillez actuellement sur Common Accord, une plateforme qui a été conçue par James Hazard, qui est un avocat qui propose, en fait, cette plateforme propose de fédérer les technologies open source comme Git, blockchain, OAuth et OpenID Connect. Donc on va essayer de vulgariser un peu tout ça, de rendre ça compréhensible à nos auditeurs. À quel besoin répondait et répond comme un accord?
Oui, alors aujourd'hui, ce qui se passe sur l'Internet, c'est que pour interagir avec un certain nombre de sociétés, vous êtes obligé de créer des comptes sur des sites qui sont pas forcément sécurisés. Vous êtes obligé d'avoir vos données qui passent par la côte ouest des États-Unis pour acheter des choses qui sont en France ou en Europe. On vous demande de dire oui à des conditions générales de vente, alors que vous n'avez pas vraiment ni le temps de les lire, ni le moyen de les négocier. Donc aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens, la façon dont on fonctionne. L'idée de Common Accord, c'est de changer un petit peu la façon dont les choses se passent, justement, en proposant une façon plus rationnelle de gérer les données personnelles et l'identité digitale sur l'Internet.
Quelles pourraient être les applications concrètes de Common Accord?
Alors aujourd'hui, ce qu'on propose avec Common Accord, par exemple, c'est le concept d'un compte universel qui serait portable, qui serait l'extension d'un compte en banque. Aujourd'hui, un compte en banque, c'est gérer des paiements. On peut très bien imaginer, en intégrant la solution Common Accord, que demain, on puisse aussi avoir dans le compte en banque la gestion d'impact d'actionnaire, par exemple, si je veux créer une société, ou la gestion de mon contrat de location si je veux louer un appartement, etc. etc. Et la banque, ce compte-là, je peux le gérer soit moi-même, l'idée c'est de faire un compte qui serait portable, soit je peux le confier à une banque, sachant que la banque est un partenaire de confiance qui a des relations aujourd'hui avec les régulateurs et qui a déjà accès à toutes mes données personnelles, qui pourrait garantir de façon beaucoup plus efficace que mes données soient accédées quand il y en a besoin, pendant la durée dont le partenaire a besoin, et pas plus. Donc c'est une façon de sécuriser, encore une fois, les données personnelles et l'identité digitale des utilisateurs.
Quelque part, à terme, vous travaillez à rendre possible un code civil 3.0.
Alors effectivement, ce qui va se passer, c'est que quand on met ce genre de système en place, on va avoir, aujourd'hui, on a commonaccord.org, qui est un repo de textes juridiques en anglais. On va voir la création de repos équivalents en français, en différentes langues, selon différentes juridictions, et un peu l'équivalent d'un Wikipédia dans le monde juridique, que on peut tout à fait résumer en un code civil 3.0.
Vous êtes coup de cœur de l'accélérateur fintech de BNP Paribas, qui est opéré par l'équipe de l'atelier. Outre les banques, quel secteur pourrait être impacté par votre solution, par Common Accord?
Aujourd'hui, la solution Common Accord s'adresse à tous les partenaires commerciaux et administratifs. En gros, oui, c'est universel. C'est l'idée. C'est une solution open source universelle pour la gestion de toutes les relations avec les différents partenaires commerciaux, administratifs, etc., pour une personne.
Marc Danjard, merci beaucoup. Alors, à nos auditeurs, si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à consulter la page du site de Common Accord. Alors, commonaccord.org. Commons.org, sachant que Commons, c'est C-O-2-M-O-N. Merci beaucoup, Marc Dangeard.
Et Lila, on enchaîne avec notre enquête de l'atelier. À quoi ressemblera l'opticien et sa boutique de demain? Lila, vous avez rencontré Éric Plat, qui est le directeur général d'Atoll.
Oui, François, effectivement, on va parler d'innovation dans l'univers des opticiens en prenant un cas assez exemplaire, à savoir la transformation digitale d'Atoll, les opticiens. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Éric Plat. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Éric Plat, vous êtes PDG d'Atoll Les Opticiens, la coopérative. Vous avez annoncé la semaine dernière votre plan d'action stratégique Transforme Atoll, un plan qui misait tout particulièrement sur l'innovation. Quels étaient les grands axes?
Alors, nous avons trois grands axes. Le premier axe, c'est celui qui concerne l'innovation. Nous avons une culture de l'innovation chez Atoll et nous allons continuer puisque les nouvelles technologies nous en donnent la possibilité. Un deuxième axe, c'est celui de donner aux opticiens des nouveaux outils pour aller chercher de nouveaux clients. Nous remettons, entre guillemets, le client au cœur de l'enseigne Atoll de façon à ce que l'enseigne Atoll soit bien dans le cœur des consommateurs. Et puis enfin, un troisième axe stratégique fondamental, les opticiens Atoll se réclament d'être des professionnels de la santé visuelle et du bien-être pour les consommateurs français, porteurs de lunettes.
Si on revient sur l'aspect innovation et à la fois parcours client, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer chez Atoll, les opticiens?
Alors, de nombreuses choses. La première, on va reconsidérer notre concept magasin de façon à retravailler sur le parcours client dans ce magasin. Les Français évoluent dans leurs attentes grâce aux nouvelles technologies. Le smartphone est devenu un compagnon d'achat et il faut absolument qu'on tienne compte de tout cela. Ensuite, nous allons changer notre logiciel point de vente qui sera dans le cloud, de façon à pouvoir connecter notre logiciel point de vente avec notre nouveau site web. Notre nouveau site web qui va intégrer, qui intègre déjà de nombreuses innovations. Par exemple, la sélection des produits lorsque le consommateur se connecte d'une façon prédictive, qui intègre le choix des lunettes en réalité augmentée, qui intègre aussi, bien entendu, la vente de produits, non pas de lunettes, parce que ça ne correspond pas à des attentes des consommateurs, mais produits lentilles, et différents accessoires. Et puis, nous allons évidemment, dans le cadre de notre politique d'innovation, travailler dans quatre grandes directions sur les objets connectés. On sait que ça va représenter à terme un marché considérable. C'est une source de croissance pour nos associés à terme. Et nous allons travailler d'abord dans la direction des personnes âgées. Il y a un véritable enjeu fondamental pour notre société d'avenir avec les personnes qui sont touchées par les maladies dégénératives type Alzheimer, par la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc, les lunettes connectées devront pouvoir apporter un certain nombre de services à la fois à ceux qui sont concernés et à leurs familles.
On va revenir sur la problématique, sur ce marché des objets connectés. Mais revenons sur l'initiative de réalité augmentée dont vous parliez. Est-ce que l'idée, c'est d'amener le client en magasin, parce qu'on sait bien que chez les opticiens, aujourd'hui, la vente en ligne est un peu compliquée. Est-ce que ça répond à ça?
Alors aujourd'hui, 90% des consommateurs se connectent au web et au site internet des commerçants avant d'aller dans un magasin. C'est une réalité. En revanche, suivant les métiers, les consommateurs achètent ou pas sur internet. Il se trouve que dans les lunettes, ce n'est pas le cas. Donc l'essayage des lunettes en réalité augmentée va être une aide à la préparation à l'achat. Le consommateur va pouvoir faire des choix de lunettes, c'est là où le système prédictif va fonctionner, et puis il va pouvoir commander chez l'opticien ses produits qu'il aura en stock ou qu'il pourra faire venir de notre plateforme beaunoise en Bourgogne, pour qu'ensuite le consommateur puisse les essayer. Donc on est dans une logique de préparation de l'achat, d'aide à l'achat, de l'aide au choix pour le consommateur.
Donc, quelque part, moi, en tant que cliente d'Atoll, les opticiens, je vais pouvoir essayer une certaine série de lunettes en ligne via la réalité augmentée et prendre rendez-vous pour essayer en magasin ces lunettes.
C'est tout à fait cela. Là, à ce moment-là, le professionnel, l'opticien Atoll, pourra aider dans le choix final le consommateur qui n'a pas toujours conscience des impératifs techniques liés au choix de la monture. Un formiope devra choisir des montures un petit peu plus épaisses pour masquer l'épaisseur au bord des verres. Un hypermétrope devra choisir une plus petite monture pour avoir un verre un petit peu moins épais. Donc là, la patte du professionnel va intervenir sur les goûts du consommateur pour lui donner des conseils.
Alors, vous avez lancé il y a un peu plus d'un an les lunettes Théo, les premières lunettes connectées, on va dire, à la française, qui permettent de géolocaliser, de retrouver ces lunettes. Vous l'aviez évoqué un peu plus tôt. Comment pourriez-vous aller plus loin en matière d'objets connectés? Vous aviez évoqué le cas des personnes âgées.
Alors, dans quatre directions, nous travaillons actuellement. La première direction, donc les personnes âgées, comme on vient de le dire. Donc ça, le nom du programme s'appelle Senior Care. Une deuxième direction pour les enfants, les juniors. Vous savez qu'en France, il y a une véritable pandémie. Toute une classe d'âge est maintenant touchée à 50% par la myopie à cause, d'une part, de l'utilisation excessive des écrans et puis, d'autre part, du fait d'une vie un petit peu trop sédentarisée de ces enfants. Donc, on va travailler dans cette direction-là. Troisième direction, le programme Home Care. Tout ce qui touche au fonctionnement de la maison, la lunette peut avoir une fonction intéressante. Et puis enfin, le dernier axe, c'est la conduite. Ce qui nous guette principalement quand on conduit sur de longs trajets, c'est la fatigue. Et nous travaillons sur toutes ces problématiques de fatigue au volant.
Alors revenons sur les personnes âgées. Quelles pourraient être les applications concrètes?
Alors là aussi, nous travaillons dans deux directions. La première, ce sont les déficients visuels qui sont touchés par la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et la deuxième problématique, c'est surtout la dépendance des personnes, soit à mobilité réduite, soit qui sont touchées par des maladies dégénératives. Et nous travaillons sur des lunettes qui permettent évidemment de géolocaliser les personnes, puisque nous avons une expérience importante, de savoir si cette personne est debout, si elle est couchée, si elle est tombée, lorsqu'on habite loin de chez ses parents, d'une personne isolée. Ça peut être un très bon moyen de savoir si cette personne est, je dirais, dans une position normale ou anormale. On travaille donc sur tous les systèmes qui permettent d'avoir une surveillance, je dirais, sans donner l'impression d'être surveillé. La lunette est en général l'objet que les gens oublient le moins de mettre.
Et en situation de conduite automobile, quel pourrait être l'intérêt de lunettes connectées?
Lorsque l'on conduit sur de longs trajets, la fatigue pointe, surtout si on conduit le matin ou le soir en rentrant du travail. C'est d'ailleurs souvent sur les trajets les plus courts que les accidents arrivent. 80% des accidents arrivent sur des trajets courts parce qu'on a l'habitude de ces trajets et l'endormissement en la matière fait des ravages. Donc nous travaillons sur ces problématiques de lunettes qui permettent de détecter l'endormissement. Évidemment, la lunette n'engendrera pas de décharge électrique pour réveiller la personne, mais disons qu'elle avertira le cas échéant.
Donc la lunette, vraiment assistant à temps réel, constant, de son porteur.
Oui, la lunette est sur le visage, elle permet de bien voir. D'ailleurs, c'est un postulat qui pour nous est essentiel. Il y a de nombreuses lunettes connectées qui ont été ultra médiatisées, comme la Google Glass, mais qui en définitive réduisent le champ de vision de la personne et n'assurent plus la fonction première de la paire de lunettes. Nous sommes des opticiens, nous pensons que la fonction première doit être assurée et qu'ensuite un certain nombre de services doivent pouvoir être assurés, puisque beaucoup de gens la portent quasiment au quotidien.
Alors, on vient de parler de réalité augmentée. Moi, j'aimerais évoquer la question de la réalité virtuelle. Est-ce que vous croyez au potentiel de la réalité virtuelle pour simuler la consultation ophtalmologique? Est-ce que c'est quelque chose d'absolument farfelu ou est-ce que c'est une piste à surveiller?
Nous avons donc chez Atoll une cellule de veille qui nous permet de connaître toutes les initiatives qui ont lieu en ce moment en France, et Dieu sait si, contrairement au French bashing, les Français sont très en pointe sur les nouvelles technologies. Nous suivons deux jeunes chercheurs qui sont en train de mettre au point un système qui va dans ce sens-là. Je ne peux pas révéler ni les noms ni leur provenance, vous le comprenez aisément, mais nous sommes là-dessus très en pointe. Nous venons de recruter un ingénieur centralien dont l'une des fonctions est de suivre tous ces projets innovants et stratégiques, de pouvoir les évaluer et de pouvoir demain être capable d'investir dans l'une ou l'autre de ces solutions.
Alors, on a évoqué énormément d'innovations possibles. Quelles seront les premières innovations à être mises en place chez Atoll?
Les deux premières sur lesquelles nous travaillons, c'est évidemment celles qui concernent les seniors, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que là, il y a un enjeu qui est énorme. Et puis la deuxième, c'est la conduite. Ce sont deux projets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels nous avons déjà un petit peu d'avance.
Eh ben, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Eric Plach. Je rappelle, vous êtes PDG d'Atoll Les Opticiens, la coopérative. Merci beaucoup.
Lila, merci. On revient dans un instant avec, en invité, Yuval Harari. On va évoquer avec lui le futur de l'être humain. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique, c'est BFM Business, merci d'être là. Notre passion selon Sonnette, dans un petit quart d'heure, on s'intéressera à l'art numérique. Comment va évoluer l'art numérique? L'artiste de demain sera-t-il un programmateur? Est-ce que la réalité virtuelle va bouleverser l'art numérique? On verra ça dans quelques instants avec Lila Megrawa et nos invités. Mais dans l'immédiat, toujours avec vous Lila, vous avez rencontré cette semaine un personnage exceptionnel puisqu'il s'agit d'Yuval Harari, qui est historien et auteur du best-seller Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Il a vendu des millions d'exemplaires à travers le monde de son livre et vous l'avez interrogé sur l'évolution de l'être humain. À quoi va ressembler l'être humain de demain? Lila, la question est posée.
Yuval Harari, bonjour.
Bonjour.
Alors Yuval Harari, vous êtes l'auteur d'un best-seller en France, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, paru aux éditions Albin Michel. Je vous attrape après un discours très très inspirant que vous avez donné lors de l'événement USI, qui a eu lieu lundi et mardi dernier au Carrousel du Louvre à Paris. Alors pendant ce discours, vous expliquez que l'humain se distingue tout particulièrement de l'animal grâce à la fois à sa créativité et sa capacité à collaborer avec les autres. Est-ce que vous pensez qu'au contact du digital, l'homo sapiens pourrait encore évoluer?
Yes, what we see is that there are two main options. One option is that we will use technology to upgrade.
Oui, je crois qu'on peut envisager deux vraies options. La première est que nous allons utiliser les technologies pour nous upgrader, pour créer des super humains avec de super qualités. La deuxième option est que nous essaierons de créer quelque chose de totalement différent de nous, quelque chose qui serait beaucoup plus intelligent et puissant. Alors évidemment, on peut penser à l'exemple de l'intelligence artificielle. Ce serait une entité totalement inédite de tout ce qu'on a pu voir évoluer sur Terre depuis l'apparition de la vie. Depuis 4 milliards d'années, la vie relevait du royaume organique. Toutes les formes de vie étaient organiques. L'intelligence artificielle pourrait devenir la première entité non organique de l'histoire du monde. Et si elle devenait plus puissante et plus intelligente que les humains, eh bien, ma foi, elle nous remplacerait comme force dominante.
It will replace them as the dominant force on the planet.
Oui, mais alors si on pense, moi je me rappelle notamment certains scientifiques et philosophes qu'on a reçus à ce micro, alors ils rappellent que dans cette confrontation humain et robot, assez souvent on oublie deux choses, c'est qu'à la fois c'est nous qui créons ces robots, donc on reste plus ou moins maître de à la fois leurs pouvoirs et limites, et ensuite ces robots manqueront toujours de créativité. Et créativité, je vous rappelle que vous pointez comme la raison majeure de la supériorité de l'être humain.
First, we need to distinguish between robots and artificial intelligence. Robots are not very important in this regard.
Alors oui, mais il faut qu'on distingue bien robots et intelligence artificielle. Les robots, ce n'est pas vraiment le sujet. La clé, je crois, est l'intelligence qui les fait fonctionner. La manifestation physique, que sont les ordis et les robots, ce n'est pas vraiment important. Oui, les humains sont de loin supérieurs à l'intelligence artificielle sur beaucoup de plans, notamment sur le plan de la créativité. Enfin, pour le moment, parce que ça ne va pas forcément durer. Au fond, la créativité, selon les biologistes, n'est rien d'autre que le résultat de processus biochimiques dans nos corps. Je m'explique. Selon la majorité des biologistes, les organismes sont en fait des algorithmes. Les êtres humains, les girafes, les virus, ce sont tous des algorithmes. Différents des ordinateurs, bien sûr, dans le sens où ce sont des algorithmes biochimiques qui ont évolué au gré de la sélection naturelle sur des millions d'années. Mais oui, ce sont des algorithmes qui n'ont pas du point de vue biologique d'âme, d'essence spirituelle qui viendrait de Dieu. Enfin, ça, c'est du moins l'avis majoritaire des biologistes. Et si c'est vrai que les humains n'ont pas d'âme ou d'essence spirituelle, et que toutes les capacités humaines, y compris la créativité, sont le résultat de ce processus chimique, je ne vois pas pourquoi les algorithmes électroniques ne seraient pas capables d'imiter, voire de surpasser la capacité des êtres humains dans beaucoup de domaines. Tenez, par exemple, il existe des intelligences artificielles capables de composer de la musique. Et si vous demandez aux gens de dire ce qui est de la musique composée artificiellement ou par des humains, ils sont souvent incapables de le dire. De la même manière, on commence à voir émerger une intelligence artificielle qui a un vrai impact créatif.
You start seeing artificial intelligence having an impact in other creative areas.
Comment ça?
To take just one example, more and more people today read books on Kindle devices and other electronic devices. What many of them don't know is that while they are reading the book.
Prenons un exemple. Aujourd'hui, de plus en plus de gens lisent des livres sur des lecteurs Kindle ou d'autres appareils. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pendant que vous lisez votre livre, le livre est en train de vous lire vous. Le Kindle est capable de vous suivre à mesure de votre lecture. Le Kindle sait quelle page vous avez lu rapidement, quelle page vous avez lu lentement. Le Kindle sait aussi quand vous vous êtes arrêté de lire et quand vous avez repris votre lecture, mais aussi quand vous avez arrêté définitivement votre lecture. Grâce à toutes ces données et statistiques, on va être capable, par exemple, d'identifier les 42% des lecteurs qui ont arrêté de lire à telle page, et donc on va pouvoir dire à l'auteur qu'il y a un problème à cette page. Et ça, ce n'est que la première génération. Demain, vous ajoutez au Kindle des applications de reconnaissance faciale ou des outils biométriques. Pour capter les expressions faciales et les réactions physiques du lecteur, ben, le Kindle sera capable de comprendre l'impact émotionnel de tout ce que vous lirez. Par exemple, vous lirez une page et le Kindle saura si vous riez, si vous vous ennuyez, si vous êtes en colère et si vous avez peur. Et ça, il le saura pour des millions de lecteurs. Ces data pourraient être utilisées pour créer des histoires excessivement efficaces. L'intelligence artificielle en tant qu'auteur saura exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire réagir. Bien sûr, elle ne sera peut-être pas Shakespeare, mais 90% des humains ne seront pas capables de composer une prose aussi efficace que celle de cette intelligence artificielle. C'est fou, mais pensez qu'il y a 10 ans, les gens pensaient qu'il serait impossible qu'une intelligence artificielle traduise des textes. Désormais, voyez Google Translate. Alors certes, ce n'est pas encore toujours correct et on ne peut pas traduire du Shakespeare avec. Mais ça suffit parfaitement pour des textes simples, comme les modes d'emploi. Pour ça, les gens n'ont pas besoin de traducteurs humains, l'intelligence artificielle suffit. Dans des domaines comme l'écriture et la traduction, l'intelligence artificielle pourrait bien rattraper plus vite que prévu l'Homo sapiens.
AI may catch up with Homo sapiens faster than we imagine.
Yuval Harari, merci beaucoup. Pour les auditeurs qui aimeraient un peu découvrir l'œuvre de Yuval, je vous invite à lire Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et puis si vous êtes un peu patient, vous pourrez découvrir le deuxième opus qui devrait traiter du futur de l'homme, donc à savoir sera-t-il un homo Homo numericus, sera-t-il un cyborg? Alors tout ça, ce bouquin, cet ouvrage devrait paraître en septembre. Nous, en tout cas, on suivra ça et on vous tiendra sûrement au courant. Merci beaucoup, Yuval.
Merci beaucoup, Lila. On revient dans un instant. On va parler d'art numérique pour notre passion selon Sanette avec notre invité. À tout de suite.